Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
Après Nicée et Constantinople, l'effritement de l'Empire. Nous avons vu le rôle majeur qu'a joué l'empereur Théodose, qui a régné de 379 à 395, dans le triomphe final de la foi de Nicée au premier concile de Constantinople en 381, où a été proclamée solennellement la divinité de l'Esprit-Saint. Dès lors, le christianisme devient rapidement la religion officielle de l'Empire et les empereurs se considèrent garants de la fidélité à la foi des apôtres. Cet interventionnisme des souverains ne fera que se confirmer par la suite, bien plus pesant que ne l'avait été celui de Constantin au IVe siècle, tandis que l'Empire romain d'Occident, comme entité politique autonome, ne cessera de se déliter. Alors, comme nous l'avons fait pour situer le concile de Nicée dans son temps, je vous propose de considérer d'abord la situation politique de cette époque. Théodose a été un grand empereur, le dernier régnant sur l'Empire romain unifié. On se rappelle qu'il était un catholique convaincu, défenseur, comme il le dit lui-même, de la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il avait convoqué le concile de Constantinople, c'était d'abord pour défendre la foi de Nicée, mais ce n'était pas non plus sans arrière-pensée politique. Dans son esprit, c'était aussi une bonne occasion d'affirmer l'égalité de Constantinople, une ville encore toute récente, avec les grands sièges épiscopaux de Rome, Alexandrie, Antioche, Jérusalem. Et ce sera une réussite, car le concile propulsera Constantinople au deuxième rang des patriarcats historiques par un texte officiel proclamant que, je cite, « l'évêque de Constantinople est le second après celui de Rome ». Mais en même temps, sur le plan militaire, Théodose devait faire face à de grands périls. En 394, à la bataille de la rivière Froide, dite bataille du Frigidus, il parvient à réunifier l'Empire sous son autorité. Mais le danger le plus grand vient des peuplades barbares, dont la pression se fait toujours plus lourde sur l'Empire. Pendant 5 ans, de 377 à 382, il y avait eu une guerre qui est restée dans l'histoire sous le nom de guerre des Goths, et Théodose y avait été mêlé de très près. Il s'agissait de savoir quoi faire des réfugiés Goths qui avaient fui vers l'Empire devant l'avancée des Huns. Comme on le fait encore aujourd'hui, on avait rassemblé ces réfugiés dans des camps provisoires, et ils y étaient si maltraités qu'ils avaient fini par se révolter et par piller la province de Thrace, au nord de la Grèce. D'autres Goths venant en renfort de leurs compatriotes, tout cela s'était soldé le 9 août 378 par une grande bataille à Andrinople où les armées romaines avaient été écrasées et où l'empereur Valens avait perdu la vie. C'est après cette bataille funeste que Théodose succède à l'empereur défunt, menant campagne pendant 3 ans contre les Goths sans remporter de succès décisif. Théodose va faire alors ce qu'on fait toujours en pareil cas, il se résout à conclure une paix de compromis. Et cette paix, signée en 382, aura de lourdes conséquences pour l'Empire romain. Car le compromis consiste à autoriser les immigrés Goths à faire souche à l'intérieur de l'Empire, essentiellement au nord de la Grèce. On les appelle des fédérés, du latin fédus, qui signifie le pacte. En contrepartie, les peuplades ainsi intégrées à l'Empire s'engagent à se tenir tranquilles et à défendre les frontières. Et on devine déjà que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Paul Venn écrit à ce sujet, je cite, « Depuis longtemps, l'Empire recourait à des éléments barbares pour mettre en culture des terres en friche et surtout pour compléter ses armées. Aussi, la langue internationale à laquelle recouraient les barbares n'était pas le grec, mais le latin, seule langue en usage dans l'armée romaine. » Mais cette fois, par une innovation décisive et fatale, les Goths restèrent groupés sous l'autorité de leur roi ou de leurs nobles. Leur intrusion était celle d'un corps étranger dans l'Empire. On peut ajouter que les conditions de l'alliance avec les barbares étaient elles aussi tout à fait nouvelles. Ordinairement, les Romains attendaient, pour conclure un pacte avec les autres peuples, que ces peuples aient d'abord été vaincus et soumis à leur autorité. Mais la paix conclue en 382 est différente, car les Goths n'ont pas été vaincus. C'est pourquoi, même si dans les premiers temps ils ont un comportement loyal, ils sauront garder mémoire de cette paix de compromis et revendiquer haut et fort leurs prérogatives. Cela d'autant plus que les armées dites romaines seront devenues de moins en moins contrôlables au fur et à mesure de l'importance qu'y auront pris les peuples barbares. Si bien que la catastrophe qui se produira un peu plus tard ne sera pas, comme le dit encore Paul Venn, je cite, « une invasion venue du dehors », mais la conséquence d'une rébellion à l'intérieur de l'Empire, où les Goths étaient installés depuis 40 ans, ou le double. Alors de quelle catastrophe s'agit-il ? Il s'agit de la chose la plus inimaginable pour les contemporains, la prise de Rome, le 24 août 410. Certes, cela s'était déjà produit dans le passé, Rome avait déjà été prise, mais c'était 620 ans plus tôt, en 390 avant Jésus-Christ, par les Gaulois. C'est exactement comme si Paris n'avait jamais été prise depuis la guerre de Cent Ans. On mesure l'intensité du choc psychologique causé dans tout l'Empire. Saint Jérôme, qui était retiré à Bethléem, où il consacrait les 34 dernières années de sa vie à refaire la traduction latine de la Bible, s'écrit, je cite, « Il nous vient d'Occident une rumeur effrayante. Rome est investie. Les citoyens rachètent leur vie à prix d'or. Mais, après avoir perdu leurs biens, il leur faut encore perdre la vie. Ma voix s'étrangle et des sanglots m'interrompent, tandis que je dicte ces mots. Elle est conquise, cette ville qui a conquis l'univers. Que dirais-je ? Elle meurt de faim avant de périr par l'épée. À peine y reste-t-il quelques hommes à emmener en captivité. La rage des affamés se jette sur une nourriture abominable. Ils s'entre-déchirent. La mère n'épargne pas son fils à la mamelle. » Que s'était-il donc passé ? Eh bien, des événements tout à fait anecdotiques. Un prince wisigoth du nom d'Alaric, devenu roi en 395, en voulait beaucoup à Théodose, car ses soldats, alliés aux Romains, avaient été massacrés à la bataille de la rivière Froide, et Alaric était persuadé que Théodose avait fait exprès de les placer en première ligne pour qu'ils servent de boucliers humains. Après la mort de Théodose, Alaric va donc chercher à mettre en œuvre son plan de vengeance. Il tente à plusieurs reprises sans succès de conquérir l'Italie, formulant des exigences de plus en plus importantes, et il finit par mettre le siège devant Rome. Or, l'empereur ne réside pas à Rome, mais à Ravenne, qui est bien défendue par les marais qui l'entourent et par sa flotte. Il n'accorde pas une grande importance à la défense de la ville fameuse entre toutes, et il préfère l'abandonner à son sort. La ville, mal défendue, est donc très vulnérable et finit par tomber. Elle est ensuite livrée au pillage pendant 3 jours et en partie incendiée. Alaric mourra 1 an plus tard en tentant d'envahir la Sicile. À propos de cette révolte de mercenaires frustrés, on a écrit que Rome aurait pu compter les Goths parmi ses fidèles sujets si elle avait voulu satisfaire la soif d'honneur romain qui dévorait leur roi Alaric. L'Empire romain, dont la fin officielle est datée de 476, soit plus de 60 ans plus tard, ne se remettra jamais de cette catastrophe. Même si le sac de Rome est suivi de 40 ans de paix, jusqu'à l'invasion d'Attila, l'Empire d'Occident a cessé désormais d'avoir foi en lui-même, et les empereurs qui se succèdent sont souvent sans pouvoir réel. Quant aux chrétiens, à qui jusque-là tout réussissait, ils doivent faire face aux accusations des païens, qui affirme que l'abandon de la religion traditionnelle est responsable des malheurs de l'Empire et qui voit dans la prise de Rome un châtiment des dieux en colère. Ces nouvelles catastrophiques sont transmises un peu partout. Elles parviennent à Hippone, en Afrique du Nord. Or, depuis 395, l'évêque de cette ville est un des plus grands penseurs de l'histoire de l'Église, saint Augustin, né en 354 et qui mourra en 430. Devant les polémiques déclenchées par la prise de Rome, saint Augustin décide de mettre en œuvre un projet qu'il portait déjà auparavant, écrire une gigantesque fresque historique qui soit de taille à montrer la conduite des événements par Dieu. Cette œuvre, en 22 livres, écrite de 413 à 426, s'intitulera « La cité de Dieu ». Écoutons sur ce point Peter Brown, un des meilleurs connaisseurs de saint Augustin. Je cite. Dans la Cité de Dieu, Augustin disait exactement à ses contemporains ce qu'a besoin de s'entendre dire une société démoralisée. Il les confirmait dans leur identité, il leur disait à quoi ils devaient demeurer fidèles. Depuis le péché d'Adam, la race humaine avait toujours été divisée entre deux grandes cités, comme disait Augustin, c'est-à-dire entre deux grandes pyramides de fidélité opposées. L'une de ces deux cités servait Dieu et ses bons anges, l'autre servait les anges rebelles, le diable et ses démons. Bien que les deux cités apparaissent inextricablement mêlées dans l'Église comme dans le monde, le jugement dernier saurait les séparer. Le Christ prononcerait la sentence, alors les deux cités, Babylone et Jérusalem, apparaîtraient distinctes, l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. La leçon de l'ouvrage de saint Augustin, c'est qu'il ne revient pas aux hommes de départager la cité de Dieu et la cité du diable, puisque ces deux cités sont mélangées, saint Augustin dit même « tissées ensemble ». Il met aussi en garde contre des apparences souvent trompeuses en disant que il existe dans la cité terrestre de nombreux citoyens de la cité de Dieu et qu'à l'inverse, il y a des citoyens apparents de la cité de Dieu qui en réalité n'en font pas partie. Comme dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, ce n'est pas à nous de départager, mais à Dieu seul qui jugera le monde à la fin des temps. C'est dans ce contexte troublé que saint Augustin terminera sa vie en 431 dans sa ville d'Hippone assiégée par les Vandales. Il avait été invité à participer au concile d'Éphèse, mais lorsque l'invitation parviendra à Hippone, eh bien, il sera déjà mort. C'est ce concile qui nous occupera dans nos prochains entretiens.